parce qu'elle était au printemps de sa vie. Mais c'est avec vous que je dois chanter le bonheur de cette petite fleurette, maintenant. Que les timides rayons de l'aurore ont fait place aux brûlantes ardeurs du midi. Oui, c'est avec vous, mère bien-aimée. C'est pour répondre à votre désir que je vais essayer de redire les sentiments de mon âme, ma reconnaissance envers le bon Dieu, envers vous qui me le représentez visiblement. L'espace entre vos mains maternelles que je me suis livrée entièrement à lui. Oh ma mère, vous souvient-il de ce jour? Oui, je sens que votre cœur ne saurait l'oublier. Pour moi, je dois attendre le beau ciel, ne trouvant pas ici-bas de paroles capables de traduire ce qui se passa dans mon cœur en ce jour béni. Mère bien-aimée, il est un autre jour où mon âme s'attacha plus encore à la vôtre, si c'est chose possible. Ce fut celui où Jésus vous imposa de nouveau le fardeau de la supériorité. En ce jour, ma mère chérie, vous avez semé dans les lames, larmes mises au ciel. Vous serez remplie de joie, en voyant chargée de gerbes précieuses. Oh ma mère, pardonnez ma simplicité enfantine, je sens que vous me permettez de vous parler sans chercher ce qu'il est permis à une jeune religieuse de dire à sa prière. Peut-être ne me tiendrai-je pas toujours dans les bornes prescrites aux inférieurs. Mais ma mère, j'ose le dire, c'est votre faute. J'agis avec vous comme une enfant, parce que vous n'agissez pas avec moi, en prière, mais en mère. Ah, je le sens bien, mère chérie, c'est le bon Dieu qui me parle toujours par vous. Bien des sœurs pensent que vous m'avez gâtée, que depuis mon entrée dans l'Arche Sainte, je n'ai reçu de vous que des caresses et des compliments. Cependant, il n'en est pas ainsi. Vous verrez ma mère dans le cahier contenant mes souvenirs d'enfance, ce que je pense de l'éducation forte et maternelle que j'ai reçue de vous. Du plus profond de mon cœur, je vous remercie de n'avoir pas ménagé. Jésus savait bien qu'il fallait à sa petite fleur l'eau vivifiante de l'humiliation. Elle en était trop faible pour prendre racine sans ce secours. Et c'est par vous, ma mère, que ce bienfait lui fut dispensé. Depuis un an et demi, Jésus a voulu changer la manière de faire pousser sa petite fleur. Il a trouvé sans doute trop arrosée, car maintenant c'est le soleil qui l'a fait grandir. Jésus ne fait plus pour elle que son sourire qu'il lui donne encore par vous, ma mère bien-aimée. Ce doux soleil, loin de flétrir la petite fleur, l'a fait pousser merveilleusement au fond de son calice. Elle conserve les précieuses gouttes de rosée qu'elle a reçues, et ces gouttes lui rappellent toujours qu'elle est petite et faible. Toutes les créatures peuvent se pencher vers elle, l'admirer, l'accabler de leur louange, je ne sais pas pourquoi. Mais cela ne saurait ajouter une seule goutte de fausse joie à la véritable joie qu'elle savoure en son cœur, se voyant ce qu'elle est aux yeux du bon Dieu. Un pauvre petit néant, rien de plus. Je dis ne pas comprendre pourquoi, mais n'est-ce pas parce qu'elle a été préservée de l'eau des louanges tout le temps, que son petit calice n'était pas assez rempli de la rosée de l'humiliation. Maintenant, il n'y a plus de danger, au contraire, la petite fleur trouve si délicieuse la rosée dont elle est remplie, qu'elle se garderait bien de l'échanger pour l'eau si fade des compliments. Je ne dois pas parler, ma mère chérie, de l'amour et de la confiance que vous me témoignez. Ne croyez pas que le cœur de votre enfant soit insensible. Seulement, je sens bien que je n'ai rien à craindre maintenant. Au contraire, je puis en jouir, rapportant au bon Dieu ce qu'il a bien voulu mettre de bon en moi. S'il lui plaît de me faire paraître meilleur que je ne suis, cela ne me regarde pas. Il est libre d'agir comme il le veut. Ô ma mère, que les voies par lesquelles le Seigneur conduit les âmes sont différentes. Dans la vie des saints, on voit qu'il s'en trouve beaucoup qui n'ont rien voulu laisser d'eux. Après leur mort, pas le moindre souvenir, le moindre écrit. Il y en a d'autres au contraire, comme notre mère Sainte Thérèse, qui ont enrichi l'Église de leur sublime révélation, ne craignant pas de révéler les secrets du roi, afin qu'il soit plus connu, plus aimé des âmes. Lequel de ces deux genres de saints plaise le mieux au bon Dieu? Il me semble, ma mère, qu'ils lui sont également agréables. Puisque tous deux ont suivi le mouvement du Saint-Esprit, et que le Seigneur a dit, dites au juste que tout est bien. Oui, tout est bien lorsqu'on ne recherche que la volonté de Jésus. C'est pour cela que moi, pauvre petite fleur, j'obéis à Jésus en essayant de faire plaisir à ma mère bien-aimée. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté lorsque je me suis comparée aux saints qu'il y a entre eux et moi la même différence qu'il existe entre une montagne, dont le sommet se perd dans les cieux, et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté, me grandir. C'est impossible, je dois me supporter telle que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel, par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention maintenant. Ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier chez les riches. Un ascenseur le remplace avantageusement. Moi aussi, je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi, je veux chanter vos miséricordes. Vous m'avez instruite dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'ai annoncé vos merveilles. Je continuerai de les publier, dans l'âge le plus avancé. Quel sera-t-il pour moi à cet âge le plus avancé? Il me semble que ce pourrait être maintenant, car 2000 ans ne sont pas plus aux yeux du Seigneur que 20 ans, qu'un seul jour. Ah, ne croyez pas, mère bien-aimée, que votre enfant désire vous quitter. Ne croyez pas qu'elle estime comme une plus grande grâce de mourir à l'aurore plutôt qu'au déclin du jour. Ce qu'elle estime, ce qu'elle désire uniquement, c'est de faire plaisir à Jésus. Maintenant qu'il semble s'approcher d'elle pour l'attirer au séjour de sa gloire, votre enfant se réjouit depuis longtemps. Elle a compris que le bon Dieu n'a besoin de personne, encore moins d'elle que les autres, pour faire du bien sur la terre. Ma mère, pardonnez-moi si je vous attriste. Ah, je voudrais tant vous réjouir, mais croyez-vous que si vos prières ne sont pas exaucées sur la terre, si Jésus, pour quelques jours, sépare l'enfant de sa mère, ses prières ne le seront pas au ciel? Votre désir est, je le sais, que j'accomplisse près de vous une mission bien douce, bien facile. Cette mission ne pourrais-je pas l'achever du haut des cieux? Comme Jésus le dit un jour à Saint-Pierre, vous avez dit à votre enfant, « Paix, mes agneaux. » Et moi, je me suis étonnée, je vous ai dit, « Être trop petite, je vous ai supplié de faire vous-même paître vos petits agneaux, et de me garder et de me faire paître par grâce avec eux. » Et vous, ma mère bien-aimée, répondant un peu à mon juste désir, vous avez gardé les petits agneaux avec les brebis, mais en me commandant d'aller souvent les faire paître, à l'ombre, de leur indiquer les herbes les meilleures et les plus fortifiantes, de bien leur montrer des fleurs brillantes auxquelles ils ne doivent jamais toucher, si ce n'est pour les écraser sous leurs pas. Vous n'avez pas craint, ma mère chérie, que j'égare vos petits agneaux. Mon inexpérience, ma jeunesse, ne vous ont point effrayé. Peut-être vous êtes-vous souvenu que souvent le Seigneur se plaît à accorder la sagesse aux petits, et qu'un jour transporté de joie. Il a béni son père d'avoir caché ses secrets aux prudents et de les avoir révélés aux plus petits. Ma mère, vous le savez, elles sont bien rares les âmes qui ne mesurent pas la puissance divine à leurs courtes pensées. Elles veulent bien que partout sur la terre il y ait des exceptions. Seul le bon Dieu n'a pas le droit d'en faire. Depuis bien longtemps, je le sais, cette manière de mesurer l'expérience aux années se pratique parmi les humains. Car en son adolescence, le saint roi David chantait au Seigneur « Je suis jeune et méprisé ». Dans le même psaume 118, il ne craint pas de dire cependant « Je suis devenu plus prudent que les vieillards, parce que j'ai recherché votre volonté. Votre parole est la lampe qui éclaire mes pas. Je suis prêt d'accomplir vos ordonnances, et je ne suis point troublé de rien. » Mère bien-aimée, vous n'avez pas craint de me dire un jour que mon Dieu illuminait mon âme, qu'il me donnait même l'expérience des années. Oui, mère, je suis trop petite pour avoir de la vanité maintenant, je suis trop petite encore pour tourner de belles phrases afin de vous faire croire que j'ai beaucoup d'humilité. J'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant, de sa divine mère. Et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Mère chérie, vous le savez bien, le bon Dieu a daigné faire passer mon âme par bien des genres d'épreuves. J'ai beaucoup souffert depuis que je suis sur la terre. Mais si de mon enfance j'ai souffert avec tristesse, ce n'est plus ainsi que je souffre maintenant. C'est dans la joie et la paix. Je suis véritablement heureuse de souffrir. Oh, ma mère, il faut que vous connaissiez tous les secrets de mon âme pour ne pas sourire en lisant ces lignes. Qu'y a-t-il une âme moins éprouvée que la mienne, si l'on en juge aux apparences? Ah, si, l'épreuve que je souffre depuis un an apparaît ce regard. Quel étonnement. Mère bien-aimée, vous la connaissez cette épreuve. Je vais cependant vous en parler encore, car je la considère comme une grande grâce que j'ai reçue sous votre prioreat béni. L'année dernière, le bon Dieu m'a accordé la consolation d'observer le jeûne du carême dans toute la rigueur. Jamais je ne m'étais sentie aussi forte, et cette force se maintient jusqu'à Pâques. Cependant, le jour du Vendredi Saint, Jésus voulut me donner l'espoir d'aller bientôt le voir au ciel. Oh, qu'il m'est doux ce souvenir! Après être restée au tombeau jusqu'à minuit, je rentrais dans notre cellule, mais à peine avais-je eu le temps de poser ma tête sur l'oreiller que je sentis comme un flot qui montait en bouillonnant jusqu'à mes lèvres. Je ne savais pas ce que c'était, mais je pensais que peut-être j'allais mourir et mon âme était inondée de joie. Cependant, comme notre lampe était soufflée, je me dis qu'il fallait attendre un matin pour m'assurer de mon bonheur, car il me semblait que c'était là du sang que j'avais vomi. Le matin ne se fit pas longtemps à attendre. En m'éveillant, je pensais tout de suite que j'avais quelque chose de gai à apprendre. En m'approchant de la fenêtre, je pus constater que je ne m'étais pas trompée. Ah, que mon âme fut remplie d'une grande consolation. J'étais intimement persuadée que Jésus, au jour anniversaire de sa mort, voulut me faire entendre un premier appel. C'était comme un doux et lointain murmure qui m'annonçait l'arrivée de l'époux. Ce fut avec une bien grande ferveur que j'assistai à Prime et au chapitre des pardons. J'avais hâte de voir mon tour arriver, afin de pouvoir, en vous demandant pardon, vous confier ma mère bien-aimée, mon espérance et mon bonheur. Mais j'ajoutai que je ne souffrais pas du tout, ce qui était bien vrai, et je vous suppliais ma mère de me donner rien de particulier. En effet, j'eus la consolation de passer la journée du Vendredi Saint, comme je l'ai désiré. Jamais les austérités du Carmel ne m'avaient semblé aussi délicieuses. L'espoir d'aller au ciel me transportait d'allégresse. Le soir de ce bienheureux jour étant arrivé, il fallut se reposer, mais comme la nuit précédente, le bon Jésus me donna le même signe que mon entrée dans l'éternelle vie n'était pas éloignée. Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leurs pensées. En niant l'existence du ciel, du beau ciel, où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie des plus épaisses ténèbres, et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines, elle devait ne s'étendre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu. Et cette heure, ce n'est pas encore venue. Je voudrais pouvoir exprimer ce que je ressens, mais hélas, je crois que c'est impossible. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Je vais cependant essayer de l'expliquer par une comparaison. Je suppose que je suis née dans un pays environné d'un épais brouillard. Jamais je n'ai contemplé le riant aspect de la nature inondée, transfigurée par le brillant soleil. Dès mon enfance, il est vrai, j'entends parler de ces merveilles. Je sais que le pays où je suis n'est pas ma patrie, qu'il en est un autre vers lequel je dois sans cesse aspirer. Ce n'est pas une histoire inventée par un habitant du triste pays où je suis, c'est une réalité certaine, que le roi de la patrie, au brillant soleil, est venu vivre 33 ans dans le pays des ténèbres. Hélas, les ténèbres n'ont pas compris que ce divin roi était la lumière du monde. Mais Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière, elle vous demande pardon pour ses frères, elle accepte de manger aussi longtemps que vous voudrez le pain de la douleur. Elle ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume, où mangent les pauvres pécheurs, avant le jour que vous avez marqué. Mais aussi ne peut-elle pas dire, en son nom, au nom de ses frères, « Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs. » Ô Seigneur, envoyez-nous justifiés, que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous enfoncer. Ma mère bien-aimée, ce que je vous ai écrit n'a pas de suite. Ma petite histoire, qui ressemblait à un conte de fées, s'est tout à coup changée en prière. Je ne sais pas à quel intérêt vous pourrez trouver à lire toutes ces pensées confuses et mal exprimées. Enfin, ma mère, je n'écris pas pour faire une œuvre littéraire, mais par obéissance. Si je vous ennuie, du moins vous verrez que votre enfant a fait preuve de bonne volonté. Je vais donc, sans me décourager, continuer à ma petite comparaison au point où je l'avais laissée. Je disais que la certitude d'aller un jour loin du pays triste et ténébreux m'avait été donnée dès mon enfance. Non seulement je croyais d'après ce que j'entendais dire aux personnes plus savantes que moi, mais encore je sentais, au fond de mon cœur, des aspirations vers une région plus belle. De même que le génie de Christophe Colomb lui fit pressentir qu'il existait un nouveau monde, alors que personne n'y avait songé. Ainsi, je sentais qu'une autre terre me servirait un jour de demeure stable. Mais tout à coup, les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais. Ils pénètrent dans mon âme et l'enveloppent de telle sorte qu'il m'est presque plus possible de retrouver en elle l'image si douce de ma patrie. Tout a disparu. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent en se moquant. de moi. Tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ces merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera, non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Mais bien-aimé, l'image que j'ai voulu vous donner des ténèbres qui obscurcissent mon âme est aussi imparfaite qu'une ébauche comparée au modèle. Cependant, je ne veux pas en écrire plus long. Je craindrais de blasphémer. J'ai peur même d'en avoir trop dit. Ah, que Jésus me pardonne si je lui ai fait de la peine, mais il sait bien que, tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire les œuvres. Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis un an que pendant toute ma vie. À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mes ennemis viennent me provoquer, je me conduis en brave. Sachant que c'est une lâcheté de se battre en duel, je tourne le dos à mes adversaires, sans daigner le regarder en face. Je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang, confesser qu'il y a un ciel. Je lui dis que je suis heureuse de ne pas jouir de ce beau ciel sur la terre, afin qu'il l'ouvre pour l'éternité aux pauvres incrédules. Aussi, malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, je puis cependant m'écrier « Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. » Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir par votre amour? Plus la souffrance est intime, et moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle vous réjouit. Ô mon Dieu, même si par impossible vous-même deviez ignorer ma souffrance, je serais encore heureuse de la posséder si, par elle, je pouvais empêcher ou réparer une seule faute commise contre la foi. Ô ma mère, jamais je n'ai si bien senti combien le Seigneur est doux et miséricordieux. Il ne m'envoyait cette épreuve qu'au moment où j'ai eu la force de la supporter. Plutôt, je crois bien qu'elle m'aurait plongée dans le découragement. Maintenant, elle m'enlève tout ce qui aurait pu se trouver, de satisfaction naturelle dans le désir que j'avais du ciel. Ma bien-aimée, il me semble maintenant que rien ne m'empêche de voler, car je n'ai plus de grand désir si ce n'est celui d'aimer jusqu'à mourir d'amour. Ma mère chérie, je suis tout étonnée en voyant ce que je vous ai écrit hier. Quel griffonnage! Ma main tremblait de telle sorte qu'il m'ait été impossible de continuer. Et maintenant, je regrette même d'avoir essayé d'écrire. J'espère qu'aujourd'hui, je vais le faire plus lisiblement, car je ne suis plus dans le dodo, mais dans un joli petit fauteuil tout blanc. Oh, ma mère, je sens bien que tout ce que je vous dis n'a pas de suite. Mais je sens aussi le besoin, avant de vous parler du passé, de vous dire mes sentiments présents. Plus tard, peut-être, en aurais-je perdu le souvenir. Je vais d'abord vous dire combien je suis touchée de toutes vos délicatesses maternelles. Ah, croyez-le, ma mère bien-aimée, le cœur de votre enfant est rempli de reconnaissance. Jamais il n'oubliera tout ce qu'il vous doit. Ma mère, ce qui me touche par-dessus tout, c'est la neuvaine que vous faites à Notre-Dame des Victoires. Ce sont les messes que vous faites dire pour obtenir ma guérison. Je sens que tous ces trésors spirituels font un grand bien à mon âme. Au commencement de la neuvaine, je vous disais, ma mère, qu'il fallait que la Sainte Vierge me guérisse ou bien qu'elle m'emporte dans les cieux. Car je trouvais cela bien triste, pour vous et pour la communauté, d'avoir la charge d'une jeune religieuse malade. Maintenant, je vais bien être malade toute ma vie si cela fait plaisir au bon Dieu, et je consens même à ce que ma vie soit très longue. La seule grâce que je désire, c'est qu'elle soit brisée par l'amour. Oh non, je ne crains pas une longue vie, je ne refuse pas le combat, car le Seigneur est la roche où je suis élevée, qui dresse mes mains au combat et mes doigts à la guerre. Il est mon bouclier, j'espère en lui. Si jamais je n'ai demandé pardon au bon Dieu de mourir jeune. Il est vrai que j'ai toujours espéré que c'est là sa volonté. Souvent, le Seigneur se contente du désir de travailler pour sa gloire, et vous savez, ma mère, que mes désirs sont bien grands. Vous savez aussi que Jésus a présenté plus d'un calice à mère, qu'il a éloigné de mes lèvres avant que je le boive, mais pas avant de m'en avoir fait savourer l'amertume. Mère bien-aimée, le saint roi David avait raison lorsqu'il chantait qu'il est bon, qu'il est doux à des frères d'habiter ensemble dans une parfaite union. C'est vrai, je l'ai senti bien souvent. Mais c'est au sein des sacrifices que cette union doit avoir lieu sur la terre. Ce n'est pas pour vivre avec mes sœurs que je suis venue au Carmel. C'est uniquement pour répondre à l'appel de Jésus. Ah, je pressentais bien que ce devait être un sujet de souffrance continuelle de vivre avec ses sœurs, lorsqu'on ne veut rien accorder à la nature. Comment peut-on dire que c'est plus parfait de s'éloigner des siens? A-t-on jamais reproché à des frères de combattre sur le même champ de bataille? Leur a-t-on reproché de voler ensemble pour cueillir la palme du martyr? Sans doute, on a jugé avec raison qu'ils s'encourageaient mutuellement, mais aussi que le martyre de chacun devenait celui de tous. Ainsi, en est-il dans la vie religieuse que les théologiens appellent un martyr. En se donnant à Dieu, le cœur ne perd pas sa tendresse naturelle. Cette tendresse, au contraire, grandit en devenant plus pure et plus divine. Mère bien-aimée, c'est de cette tendresse que je vous aime, Que j'aime, mes sœurs, je suis heureuse de combattre en famille pour la gloire du roi des cieux. Je suis prête aussi à voler sur un autre champ de bataille, si le divin général m'en exprimait le désir. Un commandement ne serait pas nécessaire, mais un regard, un simple signe. Depuis mon entrée dans l'arche bénie, j'ai toujours pensé que si Jésus ne m'emportait pas bien vite au ciel, le sort de la petite colombe de Noé serait le mien. Qu'un jour le Seigneur ouvrirait la fenêtre de l'arche et me dirait de voler, bien loin, les dérivages infidèles, portant avec moi la petite branche d'olivier. Ma mère, cette pensée a fait grandir mon âme. Elle m'a fait planer plus haut que tout le créé. J'ai compris que même au Carmel, il pouvait encore y avoir des séparations, qu'au ciel seulement l'union sera complète et éternelle. Alors j'ai voulu que mon âme habite dans les cieux, qu'elle ne regarde les choses de la vie, de la terre, que de loin. J'ai accepté non seulement de m'exiler au milieu d'un peuple inconnu, mais ce qui m'était bien plus amer, j'ai accepté l'exil pour mes sœurs. Jamais je n'oublierai le 2 août 96, ce jour-là, qui se trouvait justement celui de départ des missionnaires. Il fut sérieusement question du départ de Mère Agnès de Jésus. Ah, je n'aurais pas voulu faire un mouvement pour l'empêcher de partir. Je sentais cependant une grande tristesse dans mon cœur. Je trouvais que son âme, si sensible, si délicate, n'était pas faite pour vivre au milieu d'âmes qui ne sauraient la comprendre. Mille autres pensées se pressaient en foule dans mon esprit et Jésus se taisait. Il ne commandait pas à la tempête. Et moi je lui disais, mon Dieu, pour votre amour j'accepte tout, si vous le voulez. Je veux bien souffrir jusqu'à mourir de chagrin. Jésus se contenta de l'acceptation. Mais quelques mois après, on parla du départ de Sainte Geneviève et de Sainte Marie de la Trinité. Alors ce fut un autre genre de souffrance, bien intime, bien profonde. Je me représentais toutes les épreuves, les déceptions qu'elles auraient à souffrir. Enfin, mon ciel était chargé de nuages. Seul le fond de mon cœur restait dans le calme et la paix. Ma mère bien-aimée, votre prudence sut découvrir la volonté du bon Dieu. Et de sa part, vous avez défendu à vos novices de penser maintenant à quitter le berceau de leur enfance religieuse. Mais leurs aspirations, vous les compreniez puisque vous-même, ma mère, aviez demandé dans votre jeunesse d'aller à Saïgon. C'est ainsi que souvent les désirs des mères trouvent un écho dans l'âme de leur enfant. Oh, ma mère chérie, votre désir apostolique trouve en mon âme, vous le savez, un écho bien fidèle. Laissez-moi vous confier pourquoi j'ai désiré et désire encore, si la Sainte Vierge me guérit, quitter pour une terre étrangère la délicieuse oasis où je vis si heureuse sous votre regard maternel. Il faut, ma mère, vous me l'avez dit, pour vivre dans les Carmels étrangers, une vocation toute spéciale. Beaucoup d'âmes s'y croient appelées sans l'être en effet. Vous m'avez dit aussi que j'avais cette vocation et que ma santé seule était un obstacle. Je sais bien que cet obstacle disparaîtrait si le bon Dieu m'appelait au loin. Aussi, je vis sans aucune inquiétude. S'il me fallait un jour quitter mon cher Carmel, ah, ce ne serait pas sans blessure. Jésus ne m'a pas donné un cœur insensible. C'est justement parce qu'il est capable de souffrir que je désire qu'il donne tout à Jésus, tout ce qu'il peut donner. Ici, ma bien-aimée, je vis sans aucun embarras des soins de la misérable terre. Je n'ai qu'à remplir la douce et facile mission que vous m'avez confiée. Ici, je suis comblée de vos prévenances maternelles. Je ne sens pas la pauvreté, n'ayant jamais manqué de rien. Mais surtout ici, je suis aimée, de vous et de toutes les sœurs, et cette affection m'est bien douce. Voilà pourquoi je rêve un monastère où je serai inconnue, où j'aurai à souffrir la pauvreté, le manque d'affection, enfin l'exil du cœur. Ce n'est pas dans l'intention de rendre des services au Carmel qui voudrait bien me recevoir, que je quitterai tout ce qui m'est cher, sans doute. Je ferai tout ce qui dépendrait de moi, mais je connais mon incapacité, et je sais qu'en faisant de mon mieux, je n'arriverai pas à bien faire. N'ayant, comme je le disais tout à l'heure, aucune connaissance des choses de la terre. Mon seul but serait donc d'accomplir la volonté du bon Dieu, de me sacrifier pour lui, de la manière qu'il lui plairait. Je sens bien que je n'aurai aucune déception, car lorsqu'on s'attend à une souffrance pure et sans aucun mélange, la plus petite joie devient une surprise inespérée. Et puis, vous le savez, ma mère, la souffrance elle-même devient la plus grande des joies lorsqu'on la recherche comme le plus précieux des trésors. Oh non, ce n'est pas avec l'intention de jouir du fruit de mes travaux que je voudrais partir. C'était là mon but, je ne sentirais pas cette douce paix qui m'inonde et je souffrirais même de ne pouvoir réaliser ma vocation pour les missions lointaines. Depuis longtemps, je ne m'appartiens plus. Je suis livrée totalement à Jésus. Il est donc libre de faire de moi ce qui lui plaira. Il m'a donné l'attrait d'un exil complet. Il m'a fait comprendre toutes les souffrances que j'ai rencontrées, me demandant si je voulais boire ce calice jusqu'à la lie. Aussitôt, j'ai voulu saisir cette coupe que Jésus m'est présentée, mais lui, retirant sa main, me fit comprendre que l'acceptation le contentait. Ma mère, de quelles inquiétudes on se livre en faisant vœu d'obéissance, que les simples religieuses sont heureuses, leur unique boussole étant la volonté des supérieurs, elles sont toujours assurées d'être dans le droit chemin. Elles n'ont pas à craindre de se tromper, même s'il leur paraît certain que les supérieurs se trompent. Mais lorsqu'on cesse de regarder la boussole infaillible, lorsqu'on s'écarte de la petite voie, qu'elle est de suivre sous prétexte de faire la volonté de Dieu, qui n'éclaire pas bien ceux qui pourtant tiennent sa place, aussitôt l'âme s'égare dans les chemins arides, où l'eau de la grâce lui manque bientôt. Ma mère bien-aimée, vous êtes la boussole que Jésus m'a donnée pour me conduire sûrement au rivage éternel, qui m'est doux de fixer sur vous mon regard et d'accomplir ensuite la volonté du Seigneur. Depuis qu'il a permis que je souffre des tentations contre la foi, il a beaucoup augmenté dans mon cœur l'esprit de foi, qui me fait voir en vous non seulement une mère qui m'aime et que j'aime, mais surtout qui me fait voir Jésus, vivant dans votre âme, et me communiquant par vous sa volonté. Je sais bien, ma mère, que vous me traitez en âme faible, en enfant gâté. Aussi, je n'ai pas de mal à porter le fardeau de l'obéissance, mais il me semble, d'après ce que je ressens au fond de mon cœur, que je ne changerai pas de conduite, et que mon amour pour vous ne souffrirait aucune diminution, s'il vous plaisait de me traiter sévèrement. Car je verrai encore que c'est la volonté de Jésus, que vous agissiez ainsi pour le plus grand bien de mon âme. Cette année, ma mère chérie, le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce qu'était la charité. Avant, je le comprenais, il est vrai, mais d'une manière imparfaite. Je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus. Le second commandement est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je m'appliquais surtout à aimer Dieu, et c'est dans les moments que j'ai compris qu'il ne fallait pas que mon amour se traduise seulement par des paroles, car ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Cette volonté, Jésus l'a fait connaître plusieurs fois, je devrais dire presque à chaque page de son évangile. C'est la dernière scène, lorsqu'il sait que le cœur de ses disciples brûle d'un plus ardent amour que lui, qui vient de se donner à eux, dans l'ineffable mystère de son Eucharistie. Ce doux sauveur veut leur donner un commandement nouveau. Il leur dit avec une inexprimable tendresse, « Je vous fais un commandement nouveau. C'est de vous entraîner, et que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. La marque à quoi tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, c'est si vous vous entraînez. » Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples et pourquoi les a-t-il aimés? Ah, ce n'était pas leur qualité naturelle qui pouvait l'attirer. Il y avait entre eux et lui une distance infinie. Il était la science, la sagesse, éternelle. Ils étaient de pauvres pécheurs, ignorants et remplis de pensées terrestres. Cependant, Jésus les appelle, ses amis, ses frères. Il veut les voir régner avec lui dans le royaume de son Père. Et pour leur ouvrir son royaume, il veut mourir sur une croix, car il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Mais bien-aimé, en méditant ces paroles de Jésus, j'ai compris combien mon amour pour mes sœurs était imparfait. J'ai vu que je ne les aimais pas comme le bon Dieu les aime. Ah, je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. Mais surtout, j'ai compris que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur. Personne n'a dit « Jésus n'allume un flambeau pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier afin qu'il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Il me semble que ce flambeau représente la charité, qui doit éclairer et réjouir non seulement ceux qui sont les plus chers, mais tous ceux qui sont dans la maison, sans excepter personne. Parce que le Seigneur avait ordonné à son peuple d'aimer son prochain comme soi-même. Il n'était pas encore venu sur la terre, aussi sachant bien à quel degré l'on aime sa propre personne. Il ne pouvait demander à ses créatures un amour plus grand pour le prochain. Mais lorsque Jésus fit à ses apôtres un commandement nouveau, ce commandement à lui, comme il le dit plus loin, ce n'est plus d'aimer le prochain comme soi-même qu'il parle, mais de l'aimer comme lui, Jésus, l'a aimé, comme il l'aimera jusqu'à la consommation des siècles. Seigneur, je sais que vous me commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous les aimez. Si vous-même ou mon Jésus ne les aimiez encore en moi, parce que vous vouliez m'accorder cette grâce, que vous m'avez fait un commandement nouveau. Oh, que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance de votre volonté, que votre volonté est d'aimer en moi tout ce que vous me commandez d'aimer. Oui, je le sens lorsque je suis charitable, c'est Jésus qui agit en moi. Plus je suis unie à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Parce que je veux augmenter en moi cet amour, lorsque surtout le démon essaie de me mettre devant les yeux de l'âme des défauts de telle ou de telle sœur qui m'est moins sympathique, je m'empresse de rechercher ses vertus, ses bons désirs. Je me dis que si je l'ai vue tomber une fois, elle peut bien avoir remporté un grand nombre de victoires qu'elle cache par humilité. Et que même ce qui me paraît une faute peut très bien être, à cause de l'intention, un acte de vertu. Je n'ai pas de peine à me le persuader, car j'ai fait un jour une petite expérience qui m'a prouvé qu'il ne faut jamais juger. C'était pendant une récréation, la portière sonne deux coups. Il faut aller ouvrir la grande porte des ouvriers pour faire entrer les arbres destinés à la crèche. La récréation n'était pas gaie, car vous n'étiez pas là, ma mère chérie. Aussi, je pensais que si l'on m'envoyait servir de tierce, je serais bien contente. Justement, mère, sous prieur, me dit d'aller en servir, ou bien la sœur qui se trouve à côté de moi. Aussitôt, je commence à défaire notre tablier, mais assez doucement, pour que ma compagne ait quitté le sien avant moi, car je pensais lui faire plaisir en la laissant être tierce. La sœur qui a remplacé la dépositaire nous regardait en riant, et voyant que je m'étais levée la dernière, elle me dit « Ah, j'avais bien pensé que ce n'était pas vous qui aviez gagné une perle à votre couronne. Vous alliez trop lentement. » Bien certainement, toute la communauté crut que j'avais agi par nature, et je ne saurais dire combien une aussi petite chose me fit de bien à l'âme, et me rendit indulgente pour les faiblesses des autres. Cela m'empêche aussi d'avoir de la vanité lorsque je suis jugée favorablement, car je me dis ceci. Puisqu'on prend mes petits actes de vertu pour des imperfections, on peut tout aussi bien se tromper en prenant pour vertu ce qui n'est qu'imperfection. Alors je dis avec saint Paul, je me mets fort peu en peine d'être jugée par aucun tribunal humain. Je ne me juge pas moi-même. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Aussi, pour me rendre ce jugement favorable, ou plutôt afin de n'être pas jugée du tout, je veux bien toujours avoir des pensées charitables, car Jésus a dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ma mère, en lisant ce que je viens d'écrire, vous pourriez croire que la pratique de la charité ne m'est pas difficile. C'est vrai. Depuis quelques mois, je n'ai plus à combattre pour pratiquer cette belle vertu. Je ne veux pas dire par là qu'il ne m'arrive jamais de faire des fautes. Ah, je suis trop imparfaite pour cela, mais je n'ai pas beaucoup de mal à me relever lorsque je suis tombée. Parce qu'en un certain combat, j'ai remporté la victoire. Aussi, la milice céleste vient-elle maintenant à mon secours. Nous pouvons souffrir de me voir vaincue, après avoir été victorieuse dans la gloire. Glorieuse guerre que je vais essayer de décrire. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblait très désagréable. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les épreuves. Alors je me suis appliquée à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. À chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n'est pas d'artiste qui n'aime à recevoir des louanges des œuvres de ses œuvres. Et Jésus, l'artiste des âmes, est heureux lorsqu'on ne s'arrête pas à l'extérieur, mais que, pénétrant jusqu'au sanctuaire intime qu'il s'est choisi pour demeurer, on en admire la beauté. Je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats, je tâchais de lui rendre tous les services possibles, et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire et je tâchais de détourner la conversation. Car elle est dit dans l'imitation, il vaut mieux laisser chacun dans son sentiment que de s'arrêter à contester. Souvent aussi, lorsque je n'étais pas à la récréation, je veux dire pendant les heures du travail, ayant quelques rapports d'emploi avec cette sœur, lorsque mes combats étaient trop violents, je m'enfuyais comme un déserteur. Comme elle ignorait absolument ce que je ressentais pour elle, jamais elle n'a soupçonné les motifs de ma conduite et demeure persuadée que son caractère m'est agréable. Un jour à la récréation, elle me dit, à peu près ces paroles d'un air très content. Pourriez-vous me dire, ma Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui vous attire tant vers moi? À chaque fois que vous me regardez, je vous vois sourire. Ah, ce qui m'attirait, c'était Jésus caché au fond de son âme, Jésus qui rend doux ce qu'il y a de plus amer. Je lui répondis que je souriais parce que j'étais contente de la voir. Bien entendu, je ne jetais pas que c'était au point de vue spirituel. Ma mère bien-aimée, je vous l'ai dit, mon dernier moyen de ne pas être vaincue dans les combats, c'est la désertion. Ce moyen, je l'employais déjà pendant mon noviciat, il m'a toujours parfaitement réussi. Je veux ma mère vous en citer un exemple, qui, je crois, vous fera sourire. Pendant une de vos bronchites, je vins un matin tout doucement remettre chez vous les clés de la grille de communion. Car j'étais sacristine, au fond, je n'étais pas fâchée d'avoir cette occasion de vous voir. Je suis même très contente, mais je me gardais bien de le faire paraître. Une sœur animée d'un saint zèle, et qui cependant m'aimait beaucoup, me voyant entrer chez vous, ma mère crut que j'allais vous réveiller. Elle voulut me prendre les clés, mais j'étais trop maligne pour les lui donner et céder mes droits. Je lui dis le plus poliment possible que je désirais autant de ne pas vous éveiller et que c'était à moi de rendre les clés. Je comprends maintenant qu'il aurait été bien plus parfait de céder à cette sœur, jeune il est vrai, mais enfin plus ancienne que moi. Je ne le comprenais pas alors, aussi voulant absolument entrer à sa suite, malgré elle qui poussait la porte pour m'empêcher de passer, Bientôt le malheur que nous redoutions arriva. Le bruit que nous faisions vous fit ouvrir les yeux. Alors ma mère, tout retomba sur moi. La pauvre sœur à laquelle j'avais résisté se mit à débiter tout un discours dans le fond. Était ceci. « C'est Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus qui a fait tout du bruit. Mon Dieu, qu'elle est désagréable !» etc. Et moi qui sentais tout le contraire, j'avais bien envie de me défendre. Heureusement, il me vint une idée lumineuse. Je me dis que certainement, si je commençais à me justifier, je n'allais pas pouvoir garder la paix dans mon âme. Je sentais aussi que je n'avais pas assez de vertu pour me laisser accuser sans rien dire. Ma dernière planche de salut était donc la fuite. Aussitôt pensé, aussitôt fait, je partis sans tambour ni trompette, laissant la sœur continuer son discours qui ressemblait aux imprécations des Camille contre Rome. Mon cœur battait si fort qu'il me fut impossible d'aller loin, et je m'assis dans l'escalier pour jouir en paix les fruits de ma victoire. Ce n'était pas là de la bravoure, n'est-ce pas, ma chérie? Je crois cependant qu'il vaut mieux ne pas s'exposer au combat lorsque la défaite est certaine. Lasque, quand je me reporte au temps de mon noviciat, comme je vois bien combien j'étais imparfaite, me faisait des peines pour si peu de choses que j'en ris maintenant. Ah, que le Seigneur est bon d'avoir fait grandir mon âme, de lui avoir donné des ailes. Tous les filets des chasseurs ne sauraient m'effrayer, car c'est en vain que l'on jette le filet dans les yeux de ceux qui ont les ailes. Plus tard, sans doute, le temps où je suis me paraîtra encore rempli d'interdiction. Mais maintenant, je ne m'étonne plus de rien. Je ne fais pas de peine en me voyant que je suis la faiblesse même. Au contraire, c'est en elle que je me glorifie et je m'attends chaque jour à découvrir en moi de nouvelles imperfections. Me souvenant que la charité couvre la multitude des péchés, je puise à cette mine féconde que Jésus a ouverte en moi. Dans l'Évangile, le Seigneur explique en quoi consiste son commandement nouveau. Il dit en Saint Matthieu, « Vous avez appris qu'il a été dit, vous aimerez votre ami et vous haïrez votre ennemi. Pour moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Sans doute au Carmel, on ne rencontre pas d'ennemis, mais enfin il y a des sympathies. On se sent attiré vers telle sœur au lieu de telle autre. Vous ferez faire un long détour pour éviter de la rencontrer. Ainsi, sans même le savoir, elle devient un sujet de persécution. Eh bien, Jésus me dit que cette sœur, il faut l'aimer, qu'il faut prier pour elle, quand même sa conduite me porterait à croire qu'elle ne m'aime pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. Ce n'est pas assez d'aimer, il faut le prouver. On est naturellement heureux de faire un présent à un ami. On aime surtout à faire des surprises, mais cela, sans... Ce n'est point de la charité, car les pécheurs le font aussi. Voici ce que Jésus m'enseigne encore. Donnez à quiconque vous demande, et si l'on prend ce qui vous appartient, ne le redemandez pas. Donnez à toutes celles qui me demandent, c'est moins doux que d'offrir soi-même par le mouvement de son cœur. Encore, lorsqu'on demande gentiment, cela ne coûte pas de donner, mais si par malheur on n'use pas de paroles assez délicates, aussitôt l'âme se révolte si elle n'est pas affermie sur la charité. Elle trouve mille raisons pour refuser ce qu'on lui demande, et ce n'est qu'après avoir convaincu la demandeuse de son indélicatesse qu'elle lui donne enfin par grâce ce qu'elle réclame, ou qu'elle lui rend un léger service qui aurait demandé 20 fois moins de temps à remplir qu'il en a fallu pour faire valoir des droits imaginaires. Si c'est difficile de donner à quiconque demande, c'est bien encore plus de laisser prendre ce qui vous appartient sans le demander. Ô ma mère, je dis que c'est difficile, je devrais plutôt dire que cela semble difficile. Car le joug du Seigneur est suave et léger, parce qu'on en accepte. On sent aussitôt sa douceur et on s'écrie avec le psalmiste. J'ai couru dans la voie de vos commandements, depuis que vous m'avez dit que vous avez dilaté mon cœur. Il n'y a que la charité qui puisse dilater mon cœur. Ô Jésus, depuis que cette douce flamme le consume, je cours avec joie dans la voie de votre commandement nouveau. Je vais y courir jusqu'au jour bienheureux, au munissant au cortège virginal. Je pourrai vous suivre dans les espaces infinis, chantant votre cantique nouveau. Qui doit être celui de l'amour. Je disais, Jésus ne veut pas que je réclame ce qui m'appartient. Cela devrait me sembler facile et naturel, puisque rien n'est à moi. Les biens de la terre, j'y ai renoncé par le vœu de pauvreté. Je n'ai pas le droit de me plaindre si on m'enlève une chose qui ne m'appartient pas. Je dois au contraire me réjouir lorsqu'il m'arrive de sentir la pauvreté. Autrefois, il me semblait que je ne tenais à rien. Mais depuis, j'ai compris que les paroles de Jésus, je vois que dans les occasions, je suis bien imparfaite. Par exemple, dans l'emploi de peinture. Rien n'est à moi, je le sais bien, mais si en me mettant à l'ouvrage je trouve pinceau et peinture tout en désordre, si une règle ou un canif ont disparu, la patience est bien près de m'abandonner, et je dois prendre mon courage à deux mains pour ne pas réclamer avec amertume les objets qui me manquent. Il faut bien parfois demander les choses indispensables, mais en le faisant avec humilité, on ne manque pas au commandement de Jésus. Au contraire, on agit comme les pauvres qui tendent la main afin de recevoir ce qui leur est nécessaire. S'ils sont embêtés, ils ne s'étonnent pas, personne ne leur doit rien. Ah, quelle paix inonde l'âme lorsqu'elle s'élève au-dessus des sentiments de la nature. Non, il n'est pas de joie comparable à celle que goûte le véritable pauvre d'esprit. S'il demande avec détachement une chose nécessaire, et que non seulement cette chose lui soit refusée, mais encore qu'on essaye de prendre ce qu'il a, il suit le conseil de Jésus. Abandonnez même votre manteau à celui qui veut plaider pour avoir votre robe. Abandonner son manteau, c'est, il me semble, renoncer à ses derniers droits, c'est se considérer comme la servante, l'esclave des autres. Lorsqu'on a quitté son manteau, c'est plus facile de marcher, de courir, aussi Jésus ajoute-t-il. Et qui que ce soit qui vous force de faire 1000 pas, faites-en 2000 de plus avec lui. En ce sens, ce n'est pas assez de donner à quiconque me demande. Il faut aller au-devant des désirs, avoir l'air très obligé et très honoré de rendre service. Et si l'on prend une chose à mon usage, je ne dois pas avoir l'air de la regretter, mais au contraire, paraître heureuse d'en être débarrassée. Ma mère chérie, je suis bien loin de pratiquer ce que je comprends, et cependant, le seul désir que j'en ai me donne la paix. Plus encore que les autres jours, je sens que je me suis extrêmement mal expliquée. J'ai fait une espèce de discours sur la charité qui doit vous avoir fatigué à lire. Pardonnez-moi, ma mère bien-aimée, et songez qu'en ce moment, les infirmières pratiquent à mon égard ce que je viens d'écrire. Elles ne craignent pas de faire 2000 pas, là où 20 suffisent. J'ai donc pu contempler la charité en action. Sans doute mon âme doit s'en trouver embaumée pour mon esprit, j'avoue qu'il est un peu paralysé devant un pareil dévouement, et ma plume a perdu sa légèreté. Pour qu'il me soit possible de traduire mes pensées, il faut que je sois comme le passereau solitaire, et c'est rarement mon sort. Lorsque je commence à prendre la plume, voilà une bonne sœur qui passe près de moi, la fourche sur l'épaule. Elle croit me distraire, me faisant un peu la causette. Foin, canard, poule, visite du docteur. Tout vient sur le tapis, à dire vrai, cela ne dure pas longtemps, mais il est plus d'une bonne sœur charitable. Et tout à coup, une autre faneuse dépose les fleurs sur mes genoux, croyant peut-être m'inspirer des idées poétiques. Moi qui ne les recherche pas en ce moment, j'aimerais mieux que les fleurs restent à se balancer sur leur tige. Enfin, fatiguée d'ouvrir et de fermer ce fameux cahier, j'ouvre un livre qui ne veut pas rester ouvert, et je dis résolument que je copie des pensées des psaumes et de l'évangile pour la fête de notre mère. C'est bien vrai que je n'économise pas les stations, mère chérie. Je vous amuserai, je crois, en vous racontant toutes mes aventures dans les bosquets du Carmel. Je ne sais pas si j'ai pu écrire 10 lignes sans être dérangée. Cela ne devrait pas me faire rire ni m'amuser, cependant, pour l'amour du bon Dieu et de mes sœurs, si charitables envers moi, je tâche d'avoir l'air contente et surtout de l'être. Tenez, voici une faneuse qui s'éloigne après m'avoir dit d'un ton compatissant « Ma pauvre petite sœur, cela vous fatiguez d'écrire comme ça toute la journée ?»« Soyez tranquille, lui ai-je répondu. Je parais écrire beaucoup, mais véritablement, je n'écris presque rien. »« Tant mieux, m'a-t-elle dit d'un air rassuré. Mais c'est égal, je suis bien contente qu'on soit en train de faner. Ça vous distrait toujours un peu. » En effet, c'est une si grande distraction pour moi, sans compter les visites des infirmières, que je ne mens pas en disant « n'écrire presque rien ». Heureusement, je ne suis pas facile à décourager. Pour vous le montrer, ma mère, je vais finir de vous expliquer ce que Jésus m'a fait comprendre au sujet de la charité. Je ne vous ai encore parlé que de l'extérieur. Maintenant, je voudrais vous confier comment je comprends la charité purement spirituelle. Je suis bien sûr que je ne vais pas tarder à mêler l'une avec l'autre, mais ma mère, puisque c'est à vous que je parle, il est certain qu'il ne vous sera pas difficile de saisir ma pensée et de débrouiller les chevaux de votre enfant. Ce n'est pas toujours possible au Carmel de pratiquer à la lettre les paroles de l'Évangile. On est parfois obligé, à cause des emplois, de refuser un service. Mais lorsque la charité a jeté de profondes racines dans l'âme, elle se montre à l'extérieur. Il y a une façon si gracieuse de refuser ce qu'on ne peut pas donner que le refus fait autant de plaisir que le don. Il y avait qu'on se gêne moins de réclamer un service à une sœur, toujours disposée à obliger. Cependant, Jésus a dit « N'évitez point celui qui veut emprunter de vous. » Ainsi, sous prétexte qu'on serait forcé de refuser, il ne faut pas s'éloigner des sœurs qui ont l'habitude de toujours demander des services. Il ne faut pas non plus être obligeante, afin de le paraître ou dans l'espoir qu'une autre fois la sœur qu'on oblige rendra service à son tour. Car notre Seigneur a dit encore « Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quelque chose, quel gré vous en saura-t-on ? Car les pécheurs même prêtent aux pécheurs, afin de recevoir autant. » Mais pour vous, faites du bien, prêtez sans en rien espérer, et votre récompense sera grande. Oui, la récompense est grande, même sur la terre. Dans cette voie, il n'y a que le premier pas qui coûte. Prêtez sans rien en espérer, cela paraît dur à la nature. On aimerait mieux donner, car c'est une chose donnée n'appartient plus. Ce qu'on vient vous dire d'un air tout à fait convaincu, ma sœur, j'ai besoin de votre aide pendant quelques heures, mais soyez tranquille, j'ai permission de notre mère, et je vous rendrai le temps que vous me donnez, car je sais combien vous êtes pressée. Vraiment, lorsqu'on sait très bien que jamais le temps qu'on prête ne sera rendu, on aimerait mieux dire « je vous le donne ». Cela contenterait l'amour propre, car donner c'est un acte plus généreux que de prêter, et puis on fait sentir à la sœur qu'on ne compte pas sur ses services. Ah, que les enseignements de Jésus sont contraires aux sentiments de la nature. Sans le secours de sa grâce, il serait impossible non seulement de les mettre en pratique, mais encore de les comprendre. Ma mère, Jésus a fait cette grâce à votre enfant de lui faire pénétrer les mystérieuses profondeurs de la charité. Si elle pouvait exprimer ce qu'elle comprend, vous entendriez une mélodie du ciel, mais hélas, je n'ai que des bégaiements enfantins à vous faire entendre. Si les paroles mêmes de Jésus ne me servaient pas d'appui, je serais tentée de vous demander grâce et de laisser la plume. Mais non, il faut que je continue par obéissance, ce que j'ai commencé par obéissance. Mère bien-aimée, j'écrivais hier que les biens d'ici-bas n'étant pas à moi, je ne devrais pas trouver difficile de ne jamais les réclamer, si quelquefois on me les prenait. Les biens du ciel ne m'appartiennent pas, davantage, ils me sont prêtés par le bon Dieu, qui peut me les retirer sans que j'aie le droit de me plaindre. Cependant, les biens qui viennent directement du bon Dieu, les élans de l'intelligence et du cœur, les pensées profondes, tout cela forme une richesse à laquelle on s'attache comme à un bien propre, auquel personne n'a le droit de toucher. Par exemple, si en licence, on dit à une sœur quelques lumières reçues pendant l'oraison et que, peu de temps après cette sœur, parlant avec une autre, lui dise, comme elle en pensait d'elle-même, la chose qu'on lui avait confiée, il semble qu'elle prend ce qui n'est pas à elle, ou bien en récréation, on dit tout bas à sa compagne une parole pleine d'esprit et d'à propos, si elle la répète tout haut sans faire connaître la source d'où elle vient, cela paraît encore du vol à la propriétaire qui ne réclame pas. Vous aurez bien envie de le faire et saisira la première occasion pour faire savoir finement quoi s'est emparé de ses pensées. Mais mère, je pourrais si bien vous expliquer ces tristes sentiments de nature si je les avais sentis dans mon cœur. Et j'aimerais te me bercer de la douce illusion qu'ils n'ont visité que le mien s'ils m'avaient ordonné d'écouter les tentations de vos chères petites novices. J'ai beaucoup appris en remplissant les missions que vous m'avez confiées. Surtout, je me suis trouvée forcée de pratiquer ce que j'enseignais aux autres. Ainsi, maintenant, je puis le dire, Jésus m'a fait la grâce de n'être pas plus attachée au bien de l'esprit et du cœur qu'à ceux de la terre. S'il m'arrive de penser et de dire une chose qui plaise à mes sœurs, je trouve tout naturel qu'elles s'en emparent comme d'un bien à elles. Cette pensée appartient à l'Esprit Saint et non à moi, puisque Saint Paul dit que nous ne pouvons pas sans cet esprit d'amour redonner le nom des pères à notre Père qui est dans les cieux. Il est donc bien libre de servir de moi pour donner une bonne pensée à une âme. Si je croyais que cette pensée m'appartenait, je serais comme l'âne portant des reliques, qui croit que les hommages rendus au saint s'adressaient à lui. Je ne maîtrise pas les pensées profondes qui nourrissent l'âme et l'unissent à Dieu, mais il y a longtemps que j'ai compris qu'il ne faut pas s'appuyer sur elles et faire consister à la perfection et recevoir beaucoup de lumière. Les plus belles pensées ne sont rien sans les œuvres. Il est vrai que les autres peuvent en retirer beaucoup de profit si elles s'humilient et témoignent au bon Dieu de leur reconnaissance de ce qui leur permet de partager le festin d'une âme qui lui plaît d'enrichir de ses grâces. Mais si cette âme se complaît dans ses belles pensées et fait la prière du pharisien, elle devient semblable à une personne mourant de faim devant une table bien garnie, pendant que tous ses invités épuisent une abondante nourriture. Et parfois jette un regard d'envie sur le personnage possesseur de tant de biens. Ah, comme il n'y a de bien que le bon Dieu tout seul qui connaisse le fond des cœurs. Que les créatures ont de courtes de pensées, parce qu'elles voient une âme plus éclairée que les autres, aussitôt elles ont conclu que Jésus les aime moins que cette âme et qu'elles ne peuvent être appelées à la même perfection. Depuis quand le Seigneur n'a-t-il plus le droit de servir d'une de ses créatures pour dispenser aux âmes qu'il aime la nourriture qui leur est nécessaire? Au temps de Pharaon, le Seigneur avait encore ce droit, car dans l'Écriture, il dit à un monarque « Je vous ai élevé, tout exprès pour faire éclater en vous ma puissance, afin qu'on annonce mon nom par toute la terre. » Les siècles ont succédé aux siècles. Depuis que le Très-Haut prononça ces paroles et depuis sa conduite n'a pas changé, toujours il s'est servi de ses créatures comme l'instrument pour faire son œuvre dans les âmes. Si la toile peinte par un artiste pouvait penser et parler, certainement elle ne se plaindrait pas d'être sans cesse touchée et retouchée par un pinceau. Il n'en dirait pas non plus le sort de cet instrument, car elle saurait que ce n'est point au pinceau mais à l'artiste qui le dirige qu'elle doit la beauté dont elle est revêtue. Le pinceau de son côté ne pourrait se glorifier du chef-d'œuvre fait par lui. Il sait que les artistes ne sont pas embarrassés, ils se jouent des difficultés, se plaisant à choisir parfois les instruments faibles et défectueux.